Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles.
Et bonjour.
Et aujourd'hui, on va parler d'un pays que vous connaissez bien, mais dont on n'a pas parlé depuis un moment, parce que à l'international, on était plutôt focalisé depuis la rentrée sur les États-Unis, bien sûr, avec l'actualité vraiment très très importante là-bas. On parlait des pays des BRICS aussi. On a parlé de l'Argentine et on a un peu moins parlé, même pas du tout parlé, du Royaume-Uni, alors qu'il se passe des choses quand même au Royaume-Uni. Et alors dans le document que j'avais préparé pour cette émission, j'avais mis les comparaisons des différents résultats des dernières élections générales. Donc les élections, c'est l'équivalent des élections législatives en France. Et ce que je trouve intéressant dans ces résultats, c'est les résultats des dernières élections. C'est-à-dire qu'on peut voir que, donc on en avait parlé d'ailleurs en juillet dernier, fin juin, début juillet, le Parti travailliste de Keir Starmer est arrivé à trouver une majorité avec 9,7 millions de voix, alors qu'à l'élection précédente, le Parti travailliste en avait 10,3 millions presque. Et à l'élection encore avant, donc c'était en 2017, ils en avaient réuni presque 12 millions 900 000. Et donc on a eu quand même une baisse du nombre de voix, alors que déjà 2019 c'était considéré comme un raz-de-marée conservateur, une grosse grosse défaite travailliste. Eh bien cette année il a eu encore moins de voix que la dernière fois, mais il a quand même gagné parce que ben, de l'autre côté il y avait quand même une participation très faible. Et puis une division des voix entre le Parti conservateur et puis le Reform UK, donc le parti de Nigel Farage, qui a quand même réuni 4 millions de voix. Donc c'est pas rien. Et donc en fait, ce qu'avait réussi à faire Keir Starmer, c'est pas tellement proposer une alternative qui était convaincante pour les Anglais, mais c'est qu'en fait, il a réussi à endormir tout le monde. Il a fait un programme un petit peu de centre-gauche pour pas voilà pour
Je
essayer
sais pas
de
s'il a endormi tout le monde ou ce qui s'est passé, c'est que vous
un
savez
petit
que
peu quand même.
le système électoral en Grande-Bretagne,
Ouais.
il y a qu'un tour,
Oui.
et celui qui est en tête au premier tour l'emporte.
Oui, tout
Voilà,
à
c'est
fait.
tout. Donc c'est un uninominal majoritaire à un tour, on appelle ça en termes techniques. Et là, d'habitude, il y avait un bloc de gauche contre un bloc de droite,
Oui.
et la droite est majoritaire dans le pays. Mais ce qui s'est passé, c'est que les conservateurs ont tellement déçu leurs électeurs
Oui.
que ça a suscité la création d'un nouveau parti qui s'appelle le Parti Réforme de
Oui.
Farage,
Oui.
qui lui a piqué 4 ou 5 millions de voix,
Oui.
et donc ils se sont retrouvés d'un seul coup avec le travailliste en tête, simplement parce que la droite avait deux gars qui étaient l'un contre l'autre.
Oui.
Et le but de Farage maintenant, c'est qu'il trouve que les conservateurs, ça a été des gros nuls depuis toujours, ce qui n'est pas faux depuis quasiment la disparition de Madame Thatcher, quoi. Ça a été. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que Farage veut remplacer les conservateurs, et que là, les conservateurs ont été détruits. Ils ont eu très peu de sièges. Chara en a réussi à en avoir 5 ou 6. Et puis, l'autre, il s'est retrouvé avec 400 députés,
Ouais.
mais en n'ayant que 9 millions de voix, quoi, ce qui est quand même stupéfiant. Donc, on a vraiment un système bizarre où, dans le fond, le travailliste qui fait le moins de voix depuis quasiment 50 ans se retrouve avec une majorité très importante à la Chambre.
Ouais,
C'est
tout à fait.
bizarre, quoi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il a
Il a
que.
convaincu personne, quoi.
Voilà, exactement. Il
Au
a
contraire.
33,7% des voix. Alors déjà, la participation était en berne par rapport à d'habitude, mais on peut dire, ne serait-ce qu'en termes relatifs, au moins il aurait un score intéressant. Même pas tant que ça, 33,7%. C'est moins que le parti travailliste aux élections de 2017. C'est moins, bien sûr, que les conservateurs aux élections précédentes. Et puis, évidemment, le grand perdant de cette élection, c'était le parti conservateur, donc de Rishi Sunak, qui a eu deux fois moins de voix qu'à l'élection
Oui,
précédente.
c'est-à-dire
Où
qu'une
c'était
grosse
avec Boris
partie,
Johnson.
ce qui s'est passé, c'est qu'une partie importante des conservateurs a été votée pour Farage,
Ouais.
et puis l'autre partie, bah, elle était tellement fâchée qu'elle ne s'est pas déplacée.
Ouais, c'était jour de chasse ou jour de pêche, quoi.
Mais oui, c'était. Et donc on se retrouve avec un parti au pouvoir, qui est au pouvoir, mais qui a la légalité, comme on dit en France,
Ouais.
mais qui n'a pas la légitimité,
Absolument.
c'est-à-dire qu'il a un tiers des voix, et voilà, quoi, ça marche pas du tout, quoi.
Ouais, c'est clair. Et donc, il y a une actualité politique actuellement au Royaume-Uni. La raison pour laquelle j'ai voulu en parler, c'est parce qu'il y a une pétition
Qui circule
au Royaume-Uni, qui a un succès absolument fou. À l'heure où on en parle, il y a déjà plus de 2 millions de signatures. C'était bien au-dessus déjà des objectifs de cette pétition pour refaire des élections.
Oui, en disant ça va pas du tout.
Voilà. Alors quand
parce vous... que il faut dire aussi que les travaillistes ont pris toute une série de décisions plus stupides les unes que les autres depuis 4 mois qu'ils sont au pouvoir. Par exemple, il y a quelque chose qui tient beaucoup à cœur aux Britanniques, c'est il y a une allocation chauffage pour les gens qui ont des petits moyens pendant l'hiver. Mmh. Ce qu'ils ont fait, les travaillistes, c'est qu'ils ont supprimé cette allocation chauffage, et qu'ils ont augmenté beaucoup les fonctionnaires, le salaire des fonctionnaires. Donc les gens sont très fâchés parce que le parti travailliste, c'est le parti des
gens à la base, en tout cas,
mais surtout des syndicats.
Mais
des syndicats, c'est devenu un petit peu comme en France où l'éducation nationale, il y a que des socialistes, quoi, mais il y en a plus ailleurs, mais ils sont tous là. Et donc ils ont pris toute une série de mesures plus impopulaires les unes que les autres. Et du coup, les gens sont foudrages parce qu'aucune de ces mesures n'avait été annoncée dans leur programme.
Ouais. Effectivement, il y a le gouvernement de Keir Starmer prévoit pas mal d'augmentations de taxes aussi dans tous les sens.
Ah oui, ils ont fait une autre erreur. Ils ont créé un droit d'héritage sur les terres agricoles. Alors tous les paysans qui déjà gagnent pas un rond, ils sont à peu près aussi prospères qu'en France, un peu vieux. Ça ne va pas du tout. Et donc, en plus, ils peuvent plus transmettre leurs terres à leurs enfants. Donc, ça aussi, ça agace beaucoup les gens. Je comprends ça, quoi.
Évidemment, c'est à la limite le seul privilège qu'ils peuvent encore avoir.
Voilà.
Et donc, ils prévoient donc des hausses d'impôts de 40 milliards de livres sterling par an et un plan d'investissement de 100 milliards sur 5 ans pour revitaliser les services publics. Donc, les Anglais, ils sont pas fans, quoi.
Mais en plus, revitaliser les services publics, ça veut dire grosso modo, d'après ce que j'ai compris, mettre des moulins à vent et des miroirs magiques partout, quoi.
Oui, c'est
ce qu'ils appellent ça, revitaliser. Et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils font ça alors que les Allemands ont fait ça il y a 10 ans et que tout le monde sait que c'est un désastre en Allemagne.
Oui, absolument.
Donc, les types, ils doivent pas lire, ils doivent
pas. Tout ça, c'est en plus de ça dans le contexte de la COP29 où il y a des promesses un peu étranges dans tous les sens. Donc réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2035 par rapport au niveau de 1990.
C'est du grand n'importe quoi, parce que ça veut dire grosso modo, en termes clairs, pour traduire pour ceux qui nous écoutent, que la consommation d'énergie va baisser énormément en Grande-Bretagne. Et ça veut dire donc que le pays va s'appauvrir d'autant, puisqu'il y a un rapport de 1 à 1 entre la consommation d'énergie et le PIB. Donc ils ont annoncé des hausses d'impôts, des baisses de niveau de vie, des trucs qui font le malheur des pauvres gens et qui vont cailler pendant l'hiver, des augmentations d'impôts sur les transferts de gens qui gagnent du capital productif, des gens qui gagnent pas un rond, les paysans. Donc c'était difficile de faire un carton plein comme ça, quoi.
C'est clair. Et puis en plus de ça, il y avait déjà un fonds, notamment par rapport à l'immigration.
Oui. Ah, puis il y a l'immigration aussi, qui est toujours pas réglée.
On va en parler, parce que le truc, c'est
le
que justement,
projet,
d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle énormément de conservateurs n'ont pas voulu revoter pour les conservateurs, parce qu'ils en voulaient déjà à Rishi Sunak de ne pas régler ce problème.
Boris Johnson ne l'avait pas réglé, aucun des premiers ministres ne l'a réglé.
Ouais, et encore moins Keir Starmer. Déjà que les conservateurs n'avaient pas fait grand-chose, on se souvient, c'était une ministre justement d'origine indienne, Sula Braverman, on en avait parlé d'ailleurs dans cette émission, qui avait claqué la porte du Parti conservateur en disant moi je suis un poste où je suis censé faire quelque chose contre l'immigration, pour la sécurité du territoire, et vous me laissez rien faire, donc au bout d'un moment je m'en vais.
Oui, on a un peu des gens qui pensent, les Boris Johnson etc., que l'immigration c'était une chance pour l'Angleterre.
Oui, mais quelle qu'elle soit et quel que soit son nombre.
Or, on se rend bien compte que tous les services publics sont surchargés, les écoles, que ça coûte la peau des fesses parce que là aussi ils sont logés dans des hôtels quand ils arrivent, qu'il n'y a que des garçons.
Ouais.
Ils n'arrivent pas avec des familles, mais c'est des garçons de 20 ou 25 ans. Il y a aussi quelques meurtres un peu malheureux de 3 petites filles qui ont été tuées par un immigré.
Ouais.
Et il a fallu 3 mois pour qu'on sache le nom du gars parce que personne ne voulait le lire. Donc, et là aussi, ils ont essayé de cacher la vérité aux gens.
Oui.
Le type, c'était un type d'Al-Qaïda. Bon, c'est un coup de pot de peau, bien sûr, mais on sait bien que c'était un hasard, mais quand même. Et donc, tout ça, si vous voulez, fait que les Anglais ont l'impression qu'on les a pris pour des tanches, quoi.
Ouais, ouais, tout à fait. Et donc là, je voudrais partager une image. Donc là, je vous la montre. C'est le Net Approval Rating. Donc, est-ce que on demande aux Anglais, qu'est-ce que vous pensez du travail de Keir Starmer? Donc c'est un sondage absolument assassin. Donc je vous le montre. De toute façon, je vous le mettrai en insert aussi. Donc là, je crois que j'ai jamais vu de pente aussi abrupte,
aussi rapide.
Et en plus, la personnalité depuis 3 mois.
Gars, voilà, la personnalité du gars est un peu curieuse parce que ils ont, vous savez, il y avait eu la fameuse affaire des costumes de Fillon qui lui a fait beaucoup de tort, mais là, ils ont, monsieur Keir Starmer a accepté des cadeaux, mais qui en dizaines de milliers de livres, hein, c'était beaucoup d'argent, par un type qui est un richissime anglais, mais qui vit dans les Antilles. Qui est, je crois, d'origine indienne d'ailleurs, et mais des centaines de milliers de livres. Alors, les gens se posent des questions sur pourquoi Keir Starmer a-t-il accepté ces cadeaux, pourquoi vivait-il dans le grand appartement de ce monsieur à Londres. Enfin, je veux dire, il y a eu toute une série de questions sur la probité du gars.
Ouais.
Et il y a des rumeurs, qui sont des rumeurs, que il serait homosexuel.
Ah. Oui, bah,
ça gêne pas les Anglais d'habitude.
Oui.
Gêne pas les Anglais, mais là, si vous voulez, homosexuel et qui se fait entretenir parce qu'il aurait peut-être été son petit ami, c'est un peu gênant.
Ah oui, oui, oui.
Là, c'est autre chose.
Je vois, bien sûr.
Donc, vous voyez, tout ça fait mauvais effet, quoi.
Oui, bien sûr. Bah, c'est très compréhensible. Et en termes économiques aussi, moi, je suis pas forcément un spécialiste de la question anglaise. Vous en savez certainement plus que moi. Comment se porte le pays?
Le pays, si vous voulez, la vérité du pays en Angleterre, c'est que les statistiques de productivité sont très très mauvaises.
Oui.
Et quand vous avez des statistiques de productivité qui sont très très mauvaises, ben, vous vous retrouvez avec un pays qui, n'ayant pas créé de nouvelles richesses, a de plus en plus de mal à se... Et bien... En plus, il a fait une autre bêtise. Vous savez qu'en Angleterre, il y avait un régime spécial pour les étrangers qui datait d'à peu près 250 ou 300 ans, d'ailleurs, qui était véritablement à l'origine de la City. Hein. C'était que... C'est-à-dire du centre financier anglais. C'est-à-dire que celui qui vivait en Angleterre, comme moi, je l'ai fait pendant 20 ans, il avait un système fiscal intéressant. La seule chose qui intéressait le fisc britannique, c'est combien vous aviez gagné en Angleterre. C'est le non-domicile.
Ouais.
C'est-à-dire que j'étais pas domicilié en Angleterre parce que j'avais pas l'intention de m'y faire enterrer. Oui, c'était ça ce qu'il me demandait. Est-ce que vous allez être enterré en Angleterre? Je disais non, je pourrais peut-être plutôt du côté d'Avignon. Tu vois. Et donc, ils ont supprimé ça. Et donc, il y a des dizaines et des dizaines de départs qui se passent en Angleterre parce que d'un seul coup, tous les gens qui avaient beaucoup d'argent avaient tendance à venir à Londres parce qu'ils étaient taxés sur l'argent qu'ils faisaient rentrer en Angleterre. Ce qui se passait à l'extérieur, ça intéressait personne. Et donc, ça risque de porter un coup terrible à la City aussi. Donc, ça fait beaucoup, quoi.
C'est, oui.
Tout ça pour gagner 3 francs de sous, parce qu'une fois que les types sont partis, ils peuvent
rien. Il n'y a plus rien à gagner, oui, c'est un pistolet à un coup, quoi.
Donc il est probable que l'immobilier de luxe à Londres va en prendre un vieux coup dans la tête, parce que vous avez tous des belles maisons, ces gens-là. Donc tout ça au nom d'une espèce de justice sociale qui appauvrit tout le monde, quoi.
Ouais.
Donc les gens se disent, on a élu un gros crétin.
Ouais. Et alors j'ai vu que la dette publique avait atteint 100% du PIB en août dernier. C'est-à-dire c'est à peu près 3000 milliards d'euros, donc ils ont quelques années de retard sur nous encore.
Ils ont des systèmes beaucoup de pensions qui sont quand même beaucoup capitalisés.
Oui.
Donc mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont 100 milliards de dettes.
Ouais.
Avec qu'ils aient des dettes comme ça et des déficits comme ça, alors qu'ils ont des systèmes patients.
Oui, parce que nous...
Ça veut dire que l'ailleurs, ça doit couler dur. Hein.
Oui, voilà, parce que nous, par exemple, on avait dit, c'était depuis 2017-2018, à peu près la moitié du surplus de notre dette depuis, c'est à cause du système de retraite. Eux, ils ont même pas ce problème-là où ça pèse sur les cotisations.
Ça doit être tellement difficile de gérer cet état.
Ouais.
Mais voilà. Et puis, les Anglais ont été aussi bien les conservateurs que les travaillistes, des alliés très 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 très, très fidèles des États-Unis.
Ouais.
Et dans la crise ukrainienne, ils ont, par exemple, c'est Johnson qui a empêché qu'il y ait une trêve qui soit produite en février-mars au début de la guerre, quoi. C'est lui qui avait dit non, on va continuer. Il avait dit à l'Ukrainien, ben écoutez, vous allez continuer à vous battre et nous on va vous soutenir jusqu'à ce que vous ayez battu la Russie. Ça paraît mal parti. Donc le corps politique anglais conservateur plus travailliste ne donne pas l'impression de travailler pour le peuple anglais, mais un peu beaucoup pour les désirs des États-Unis. Et ça, aussi, ça agace.
Bah d'ailleurs, c'est un des gros symptômes en fait de ces dernières élections, c'est qu'en fait les deux gros perdants, c'est justement les même si y en a un, enfin comment dire, le parti travailliste reste au gouvernement, le parti conservateur est le principal parti d'opposition, mais les deux en ont pris un énorme coup en termes de légitimité. C'est-à-dire que c'est quand même un pays bipartisan de par son système électoral. De temps en temps, il y a quand même d'autres partis qui arrivent à percer à la Chambre, mais parce que ce sont des partis très territoriaux.
Oui,
c'est principalement les Écossais, les trucs comme ça. Donc eux, ils ont de la place parce qu'ils sont très implantés territorialement. Mais comment dire, ce ne sont pas des partis nationaux idéologiques. En partis nationaux idéologiques, il y a que les libéraux-démocrates et maintenant le Reform. Et aujourd'hui, c'est ces partis-là qui ont un petit peu plus le vent en poupe, même s'ils sont ils ont quand même du retard à
ils retracer. Ont fait très bien, ils ont fait 16% des voix, mais ils ont eu que combien, 5 élus, et donc c'est 14% des voix, donc c'est
14% des voix,
ils ont 5 élus sur 500, ils ont
500, ouais, c'est 1%
des élus.
Oui.
Donc il y a quelque chose qui là, et donc ce qu'essaye de faire le c'est de dire on va faire un référendum pour demander de nouvelles élections.
Oui, exactement.
C'est le but du référendum, c'est de dire dans le fond le Parlement ne correspond en rien au pays aujourd'hui.
Ouais.
Et donc il y en a un problème de légitimité.
Ouais, tout à fait. Et est-ce que selon vous, selon vous, jusqu'où va aller cette pétition? Est-ce qu'il y aurait une possibilité
vous savez, en Angleterre, c'est toujours très difficile parce que il y en a pas. Et puis comme ils sont pragmatiques, il y en a peut-être. C'est-à-dire,
ouais.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est en principe.
Bah, je note quand même que, par exemple, il y a plus ça en France depuis quelques années. Mais par exemple, Rishi Sunak a su que au bout d'un moment, il fallait démissionner.
Oui.
Voilà. C'est possible que Keir Starmer face, à une opposition aussi forte, dise, au bout d'un moment, moi aussi, je claque la porte. Démerdez-vous.
Pas démerdez-vous, mais il y a ce que j'appelle les petits hommes gris en Grande-Bretagne qui sont chargés à l'intérieur. Des partis, de dire au gars, écoute, tu as été utile, mais maintenant, il serait temps que tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut prendre, donc, à 2 millions, je pense pas.
Ouais.
À 10 millions, peut-être.
Ouais.
Parce qu'à ce moment-là, il y aura un tel mouvement que c'est difficile vraiment de. Donc, 2 millions, c'est très bien. Mais en tout cas, Starmer, ce qui est extraordinaire, 4 mois après une élection, se retrouve déjà acculé, quoi.
Oui.
Il a, pour ainsi dire, il a plus aucune crédibilité, aucun pouvoir.
Oui.
Alors ça va être intéressant, mais ce qu'on voit quand même un peu partout, c'est pour reprendre mes vieilles distinctions, que vous preniez la Roumanie cette semaine ou la Hongrie, la Pologne, tout ça, on peut dire quand même que partout sont des zones des arbres qui sont élus, c'est-à-dire que ce sont des locaux. Et partout, il semble bien, on vient de voir à Trump, c'est une espèce de triomphe des hommes des arbres contre les hommes des bateaux. Et là, ça a été un homme des bateaux qui a été élu parce que il y avait deux partis dans les hommes des arbres qui se mettaient sur la gueule, quoi.
Ouais.
Mais personne n'a le moindre doute que la majorité de la population, et soit pour Farage, soit pour les travaillistes, et encore plus tellement. Donc, la vraie question, c'est ça. C'est est-ce que le mouvement de fond de la population va être suffisant pour que Starmer n'ait pas le choix.
Oui.
Mais à ce moment-là, ça va être très intéressant, parce que vous vous souvenez quand Johnson avait gagné. Donc c'était en 2019.
Oui, tout à fait.
Ce qu'avait fait Farage à l'époque, c'est qu'il avait retiré ses candidats dans tous les endroits où il pouvait y avoir où les conservateurs pouvaient gagner. Par exemple, oui. Les conservateurs avaient gagné tout le centre industriel de l'Angleterre, qui d'habitude votait toujours travailliste.
Oui.
Et ces corneaux de conservateurs n'ont eu de cesse ensuite d'embêter Farage. Farage, c'est celui qui avait réussi à obtenir le Brexit.
Hein. Oui, tout à fait.
Et donc,
il a fait vraiment le travail de fond.
Il a fait vraiment le travail de fond pour avoir le Brexit. C'est lui qui avait réussi à obtenir le référendum. Ouais. Et les conservateurs, il y a toute une partie du conservateur qui n'a jamais pardonné à Farage d'être sorti d'Europe, qui d'ailleurs n'ont pas pris les mesures. L'une des raisons pour lesquelles l'Angleterre ne peut pas traiter le problème de l'immigration, c'est qu'ils sont toujours dans la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui.
Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'ils prennent une mesure pour expulser un corneau, il fait appel devant la Cour européenne des droits de l'homme qui leur donne tort.
Oui.
Donc, la première chose qu'aurait dû faire n'importe quel gouvernement qui voulait sortir vraiment d'Europe, c'était dire « je ne fais plus partie de la Cour européenne des droits de l'homme, vous envoyez un courrier, c'est tout ce qu'ils avaient à faire ». Et les conservateurs ne l'ont jamais fait.
Oui. Et d'ailleurs, le seul truc que les conservateurs ont essayé, c'était la fameuse histoire de délocaliser les demandes d'asile au Rwanda.
Oui, oui.
Et c'est ce qui avait été demandé donc à la toute fin du mandat de Rishi Sunak, oui, juste avant qu'il démissionne. Et donc, on aurait dû avoir en principe, en droit, on aurait dû avoir un conflit entre le Royaume-Uni et la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question. Mais on ne l'a pas eu, on ne l'aura jamais, parce que Keir Starmer, c'est le premier truc qu'il a décidé de faire, c'est supprimer ce truc de la délocalisation des demandes d'asile. C'est la première chose qu'il a fait en tant que
premier. On ne peut pas s'empêcher de penser que les socialistes anglais, un petit peu comme les nôtres, etc., trouve que le peuple anglais vote mal, mais de plus en plus mal, et que donc il serait peut-être intéressant de changer de peuple, quoi.
Ouais, tout à fait.
C'est la vieille blague de, vous savez, le parti a été très déçu par le peuple, il va peut-être falloir changer de peuple. C'était dans, je sais plus quel était ce dramaturge qui avait dit ça, c'était assez drôle, c'était dans les années 50.
Et ce qu'on voit aussi dans les instituts sondages, enfin dans les sondages de popularité, c'est que, ça pour le coup c'est assez nouveau, aujourd'hui le politicien le plus populaire c'est Nigel Farage.
Oui.
Alors il a aussi une grosse impopularité, notamment à gauche, c'est-à-dire que en gros c'est un politicien, il laisse pas grand monde de marbre, indifférent.
Un peu comme Trump. Vous l'aimez ou vous le détestez.
Voilà, c'est ça. Alors que bon, par exemple, maintenant il y a la nouvelle leader donc du parti conservateur, c'est l'ancienne ministre du commerce, et elle, alors par exemple là je cite un sondage, elle a 21% d'opinion favorable et elle a 39% d'opinion défavorable. Donc elle, il y a quand même une grosse marge où on sait pas trop. Alors que Nigel Farage, il y a 28% d'opinion favorable et 48% d'opinion défavorable. Donc vraiment, il laisse pas grand monde indifférent.
Les autres
oui. Et Keir Starmer, et aujourd'hui, c'est le plus impopulaire.
Oui, c'est très étonnant. Quatre mois après l'élection, c'est quand même étonnant. Et Farage, c'est un personnage. Et Farage, il est très très proche, pour des tas de raisons, de Trump.
Oui, tout à fait.
Et alors, les travaillistes ont fait une boulette démocratique, diplomatique invraisemblable. C'est que le Parti travailliste a décidé d'envoyer à peu près 300 des siens faire campagne pour Kamala Harris. Aux États-Unis,
ouais.
Deux mois avant l'élection.
Oui.
Donc, ce qui se fait pas, quoi.
Ouais.
Si vous n'êtes pas censé envoyer des gens pour faire campagne, pour c'est pas votre boulot.
Bah,
quoi.
C'est
à l'étranger. Et donc, ça aussi, ça veut dire que Trump va pas avoir une affection considérable pour Monsieur Starmer là.
Ouais.
Mais ça veut dire aussi qu'il va pas. Il y a rien de plus important pour les Anglais que la relation entre les États-Unis et l'Angleterre.
Oui.
Et donc, là, ça veut dire que, ben...
Ah bah, c'est sûr, ils sont dans une très mauvaise situation, parce que tant qu'il y avait l'équipe Biden, Kamala, machin, ils étaient en bon terme avec les États-Unis. Et très souvent, on dit que c'est le 51e État américain, maintenant.
Bien sûr.
C'est-à-dire, il s'est fait quelque part colonisé par sa propre colonie d'il y a 300 ans. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le leader donc du maître des États-Unis, c'est Donald Trump. Et Donald Trump, effectivement, il tient pas Keir Starmer en grand amour, quoi.
Il était fou furieux qu'on envoie des spécialistes anglais pour essayer de faire gagner Madame Harris. Donc, donc ça veut dire simplement que le Parti socialiste anglais a pris parti pour les hommes des bateaux américains, c'est-à-dire que les interventions extérieures militaires, parce que les Anglais sont vent debout à envoyer des armes et je sais pas quoi à l'Ukraine. Quoi.
Bah, d'ailleurs, maintenant, c'est Keir Starmer et Macron qui semblent être potentiellement d'accord pour envoyer des hommes carrément en Ukraine. Donc, des soldats français et anglais.
Des soldats français. Alors là, il y a un phénomène qui s'est passé dont on a assez peu parlé dans la presse. Vous avez vu, ils ont envoyé les... Ils ont envoyé des fusées à longue portée sur la Russie, qui étaient des fusées, je crois, d'ailleurs anglaises. Ouais. C'était des missiles anglais, je crois. Et alors, la réponse de Poutine,
oui.
Ça a été de complètement mais détruire et vitrifier avec des missiles hypersoniques, là, un centre de commandement ukrainien.
Mmh.
Et c'était la première fois qui était très profondément enterré. Et les missiles russes, comme ils allaient à 10 fois la vitesse du son, ils ont pénétré et ils ont tout, ouais. Ils ont tout vitrifié.
Ouais.
C'était pas atomique. Hein. Et du coup, ce que les Russes ont montré, c'est qu'ils pouvaient vitrifier...
Tout un pays.
Pas un pays. Le centre de commande, par exemple, ils pourraient vitrifier à la limite l'Elysée.
Oui.
Qui a aussi un bunker en dessous,
ouais.
Sans toucher à la rue du Faubourg Saint-Honoré, quoi.
Ah oui.
Parce qu'ils étaient extraordinairement précis, ouais, ces oui. missiles. Et donc, ça, ils ont dit, le message qu'a fait envoyer les Russes en faisant ça, c'est on ne va pas toucher les populations locales,
ouais.
Mais vous, Premier ministre, vous, Président de la République, on a maintenant les trucs pour vous descendre quand on veut et où on veut.
Ouais.
Et alors, tous ces gens-là, ils sont toujours prêts à aller faire tuer les autres. Mais ce que disait Brassens, je veux bien mourir de, pour la patrie, mais de mort lente.
Oui, je veux mourir pour ses idées, mais de mort lente. Ouais. Oui, tout à fait.
Et donc là, eux, ils sont d'accord pour faire mourir les autres, mais là, ça sera peut-être...
ouais.
C'est peut-être eux qui vont se faire flinguer cette fois-ci.
D'ailleurs, j'ai vu, c'était pas plus... que la semaine dernière, j'avais vu un spot publicitaire justement de l'armée anglaise. Et alors, ces dernières années, que ce soit l'armée anglaise ou l'armée américaine globalement, les publicités étaient généralement très inclusives. On montrait des jeunes femmes, souvent d'ailleurs issues de minorités ethniques, enfin voilà, allant se battre sur le front, en disant voilà, vous rendez compte, l'armée c'est super, etc. Et là, j'ai vu un spot où clairement, c'était pas du tout la même ambiance. Et en fait, la publicité faisait un peu l'éloge historique de l'armée anglaise. Donc on y montrait des soldats coloniaux de l'époque, voilà, on montrait un peu toute l'histoire et la gloire du soldat anglais, avec en plus de ça en voix de fond l'acteur Henry Cavill. Et donc là je me suis dit, ok, donc là c'est clairement une pub pas juste pour faire la garderie, mais pour comment dire, pour recruter des hommes blancs, quoi. Je me suis dit, s'ils prévoient de faire ça, c'est qu'à mon avis...
Ben, ils ont dit, le problème, c'est que par exemple dans l'armée américaine, les types qui vont dans l'armée, c'est en général des gens qui n'ont pas une passion pour le LGBTQ. Vous savez, c'est en principe, ouais, les gens qui vont dans l'armée sont plutôt des gens famille, patrie...
Bah, oui, comment dire, valeurs traditionnelles, quoi.
Valeurs traditionnelles. Donc,
patriotisme.
Là, et donc, ils ont 30%, de gens qui sont pas... de postes qui sont pas pourvus dans l'armée américaine. Parce que les gars, ils vont plus. Et donc, c'est ce que j'ai souvent dit, nos civilisations socialistes avaient un but, c'était la mort du soldat. Il fallait empêcher le soldat d'émerger, si vous voulez. C'était, je confonds pas soldat et militaire, hein, c'est pas pareil. Hein. Un soldat et militaire, c'est autre chose. Donc, les socialistes voulaient parler avec de militaires, et là, on parle de soldats, de gars qui sont prêts à... Et la mort du soldat, ben, c'était le bonheur du socialisme. Et là, on se retrouve dans un monde où on va avoir besoin de soldats et de beaucoup moins de militaires, quoi. C'est-à-dire, le soldat, il met sa vie en jeu, il cherche pas à faire carrière.
Oui, oui, bien sûr.
C'est pas la même chose, hein.
Ouais.
Le soldat, c'était ce qui a fait la différence. Ce soldat en Athènes, dans l'ancien temps, c'était le soldat citoyen, c'est-à-dire qu'il était activité, puis en même temps, il était soldat pour défendre la ville. Donc cette espèce de haine du soldat, Ça nous laisse un peu désarmés.
Oui. Et après, le problème, c'est que les types veulent aller envahir la Russie, quoi, derrière. Sauf qu'entre temps, ils ont voulu recruter que les filles des ressources humaines qui travaillaient chez Starbucks ou je sais pas où.
Et si je veux dire un truc, c'est qu'en tant que je regarde un peu l'histoire ici ou là, s'il y a un truc militaire qu'il faut pas faire, il y a deux pays qu'il faut jamais envahir, hein, c'est l'Afghanistan et la Russie, parce que ça a jamais porté chance à ceux qui l'ont fait, quoi. Il y a deux pays dans lesquels il faut pas aller foutre les pieds. Et ce qui est marrant, c'est que les États-Unis essayent de faire les deux, quoi. Ouais. Ils ont déjà perdu en Afghanistan et maintenant ils vont perdre en Russie. Donc ça prouve qu'ils ont, ils pensent que l'histoire a dû commencer en 1970 par là.
Oui, voire même un poil plus tard. Ouais. Mm-hmm. Et donc aussi, ce qui attire l'attention sur le Royaume-Uni, c'est l'état des lieux de la liberté d'expression.
Ça, c'est effrayant, ça.
Parce que, alors, il y a plusieurs choses, mais il y a notamment un fait de société de cet été dernier, donc vous en avez parlé. C'est ce type d'origine rwandaise qui effectivement avait un manuel de combat d'Al-Qaïda chez lui et qui a décidé de faire une attaque au couteau. Il avait blessé 10 personnes, il en avait tué 3, donc des fillettes de 9 ans, de 7 ans et de 6 ans.
C'est une école de tête. Danse.
Une école de danse, voilà, tout à fait sur le thème de Taylor Swift d'ailleurs. Donc, forcément, c'est un drame qui a choqué la nation entière. Et derrière, il y a eu pas mal de manifestations, quelques émeutes où des types demandaient quand même, qu'on s'occupe de ce problème de l'immigration parce que c'est pas normal.
Mais le pire, c'est que pendant 3 mois, ils n'ont pas dit quelle était l'origine de cet assassin.
Oui, tout à fait.
Ils l'ont pas dit, ils l'ont caché. Et que ceux qui ont dit que c'était des inhumations, ils les ont mis en taule.
Oui.
Donc, si vous voulez, ceux qui disaient la vérité, ils les ont mis en taule.
Oui, oui.
Et pour les mettre en taule, ils ont été obligés, parce qu'il n'y a pas de place, ils ont été obligés de faire sortir de taule toute une série de gars...
Qui étaient là pour des bonnes raisons.
Qui étaient là, qui avaient d'excellentes raisons d'être en taule. Et donc, vous retrouvez des pères de famille de 60 balais qui se retrouvent en taule, et on a fait sortir pour eux 2 ou 3 assassins.
Il y a même des mineurs qui ont été mis en prison parce qu'ils ont fait des commentaires soi-disant offensants sur l'immigration, sur Facebook ou sur Twitter.
Voilà, si vous dites ce que dit Farage toute la journée, d'ailleurs, qu'on a atteint les limites de l'immigration, que maintenant tous les services publics sont en train de craquer, l'éducation, le logement, tout ça, ça craque parce qu'il y a trop de monde. Eh bien, à ce moment-là, on vous accuse de racisme et on vous met en prison. Alors, on ne peut pas le faire pour Farage parce qu'il est député, mais c'est... Et donc, on a vraiment ce truc extraordinaire d'un pays qui est gouverné contre la volonté de ses habitants.
Oui.
On a ça un peu en France aussi, hein, mais...
Oui, tout à fait.
Et on le voit très bien. Et ça se passe mal, en général, quand les pays... Quand vous gouvernez contre la volonté des gens, ça finit par vous retomber dessus, non?
Oui, bien sûr. Et est-ce que, selon vous... Bon, il y aura peut-être pas des élections demain matin, mais vu les conditions actuelles et vu la direction dans laquelle va le Royaume-Uni, est-ce qu'il y aurait une possibilité pour que Farage fasse en Angleterre ce que Trump a fait aux États-Unis?
Alors, ça va être difficile parce que le système est pas du tout le même. En Angleterre, c'est un système uninominal majoritaire à un tour, tandis qu'aux États-Unis, c'est que vous avez le président, le Sénat, la Chambre des représentants. Donc, c'est beaucoup plus... Mais il s'est passé dans l'histoire, par exemple, pendant tout le 19e, vous aviez les conservateurs d'un côté et puis les libéraux de l'autre. Et les libéraux ont été blackboulés, qui était très très souvent au gouvernement, par les socialistes, enfin le Labour. Donc il y a eu un remplacement donc au début du 20e des libéraux, qui étaient plutôt à gauche, par les socialistes, qui étaient carrément à gauche. Donc c'était pas du tout la même chose. Donc là, il faudrait dire que pour que ça se passe, il faudrait que Farage réussisse à déplacer un des deux grands partis. La plupart des gens pensent que s'il doit déplacer le parti conservateur, qui est une bête robuste, je suis pas sûr. Peut-être il va être capable, s'il y a une crise comme celle qui semble se préciser, déplacer le Labour, que les gens aient l'impression que Farage est un homme du peuple,
mais
qu'il remplace, qu'il fasse aux libéraux, qu'il fasse aux socialistes, que les socialistes ont fait aux libéraux. C'est-à-dire que c'est peut-être... on va voir comment s'oriente Farage, mais c'est un homme assez étonnant parce qu'il s'est déjà... Il a réussi à faire sortir l'Angleterre de l'Europe contre toute la classe politique. Et ce serait amusant que ce soit lui qui liquide le Parti travailliste. Parce que si vous regardez l'Angleterre, finalement, vous avez des gens de gauche qui sont bons à Londres, hein, qui est à gauche, et oui. Puis dans toute la vieille branche industrielle, Birmingham, Manchester, tous ces trucs qui sont par là-bas. Et puis l'Écosse était très à gauche aussi, mais elle était en plus indépendantiste, mais maintenant elle est en train de changer. Et donc, c'est-à-dire que Farage ne peut pas prétendre parler aux gens qui sont sortis d'Eton, donc le plus profond mépris pour lui, mais il peut aller boire une bière avec le plombier du coin, ouais. Et le plombier du coin, il sera parfaitement à l'aise avec Farage, ouais. Et Farage avec lui, quoi.
Pour le coup, c'est absolument indéniable. C'est un homme du peuple, et quand il voilà, il est totalement capable effectivement d'aller prendre une bière avec n'importe qui. Ce qu'on ne voit pas faire justement les leaders des gros partis actuels. Enfin, justement, Keir Starmer, c'est exactement l'inverse. C'est le type qui veut interdire le fait de fumer en terrasse. Il va taxer l'alcool. Enfin, c'est le genre de truc. On est totalement à l'opposé de l'anglais de base. Alors que vraiment, Farage, c'est l'archétype de l'homme anglais.
Il faut savoir qu'en Angleterre, où j'ai vécu longtemps, vous avez. Bon, le peuple qui était assez ouvrier. Vous avez les conservateurs qui étaient propriétaires terriens, dont les enfants allaient dans ce qu'on appelait les public schools, c'est-à-dire comme en Angleterre, c'est des sociétés, des écoles privées, Eton, oui. Rugby, Harrow et tous ces trucs-là. Et au milieu, vous avez une classe qui est assez importante, qu'on appelait les professionals, hein, les. Et là, vous trouvez beaucoup d'avoués, de dentistes, de docteurs, de. Et Farage avait commencé sa carrière, imaginez-vous, comme un trader des matières premières dans la City. Et il a vécu dans la City. Il y avait dans la City donc les types qui sortaient des bonnes écoles, qui parlaient bien, qui étaient impeccables. Puis les gars qui arrivaient de l'East End, qui étaient parfois d'excellents traders, d'ailleurs la plupart du temps d'excellents traders, et qui était pas si bien élevé que ça, quoi. Je veux dire, c'était un peu des, je dis pas des voyous, mais enfin, c'était. Et Farage, à mon avis, il fait un tabac avec tous ces gars-là, quoi. Mmh. Donc, vous avez la classe d'autrefois, de très autrefois, les conservateurs, la classe d'avant-hier, les travaillistes.
Ouais.
Et puis au milieu, la classe de tous les gars qui sont en train d'essayer de se démerder dans la société actuelle.
Oui.
Et je crois que là, il y a un énorme marché, parce que ben, eux, ils sont ni contents, ni conservateurs, parce qu'ils n'ont rien à foutre des trucs agricoles,
ouais.
Ni des travaillistes qui essayent de les ramener à Charlie Chaplin dans le temps moderne.
Ouais.
Ça ne veut rien dire. Et donc, il y a un énorme marché de tous ces gens qui sont indépendants et pas. Il y a beaucoup de petits entrepreneurs, tout ça. C'est...
Oui.
Donc, bah, pour moi, c'est ça le clientèle de Farage.
Alors, effectivement, pour moi, ça peut être un gros centre névralgique. D'ailleurs, je crois que j'avais vu passer un sondage là-dessus, mais je ne saurais plus redire les chiffres que j'ai vus. Mais effectivement, Farage semble assez populaire, notamment dans les générations les plus jeunes.
Oui.
Et on voit, c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec Trump, oui. Où il y a 4 ans, les générations, enfin les 18-29 ans avaient beaucoup plus voté pour Biden que pour Trump. Et aujourd'hui, c'est largement plus pour Trump.
Quelque chose qui
Biden,
va beaucoup toucher chez Trump, ça, d'ailleurs, que je voulais vous mentionner parce que je trouve ça poilant, c'est vous savez, Trump, il fait une espèce de danse quand il est sur l'estrade comme ça.
Tout à fait.
Et ben maintenant, tout le monde fait cette danse aux États-Unis.
Tout le monde l'a fait, oui.
Les footballeurs professionnels, tout ça, ils sont tous en train de. Pam, pam, pam.
Il y avait John Jones à l'UFC aussi qui a fait ça la semaine dernière.
Voilà, et donc, ça veut dire que. C'est accepter cette espèce de danse de l'ours que vous avez.
Fait. On pourrait croire que c'est idiot, mais en fait c'est
un signe d'acceptation.
C'est un signe d'acceptation. Culturellement, ça a une énorme signification.
Voilà, culturellement,
c'est quelque chose d'énorme.
Et voilà, c'est comme, c'est un petit peu le. J'imagine que les Indiens, avant de faire la guerre contre les, enfin les Indiens américains contre les autres, ils dansaient autour du feu avec.
Ouais.
Ben là, c'est un peu une espèce de danse de guerre. C'est le chef, tout le monde imite le chef qui fait la danse de guerre, quoi.
Ouais,
c'est...
tout à fait.
Et ça commence Youngman, quoi.
Ouais.
Youngman.
C'est ça qui est très drôle, c'est que ce soit sur cette chanson. En plus.
Donc Farage, c'est un gars qui déclenche, comme vous le dites, soit un rejet par les vieux conservateurs ou les travaillistes.
Oui.
Mais sinon, le reste des gens, ça les fait plutôt rigoler, quoi. Ils trouvent qu'il est marrant.
Oui, mais à mon avis, ce pays a besoin d'un type comme ça. Parce que depuis plusieurs années, on a que des fromages blancs. Bon, alors on a eu Boris Johnson qui a pas,
comment dire, qui a été déçu, qui a été décevant, ça a été effrayant.
Qui est un personnage très intéressant, très cultivé et tout, mais qui a été vraiment très décevant. Et sinon, tous ceux qu'on a eu avant, les Theresa May, etc., c'était pareil. Ceux qu'on a eu après, Rishi Sunak, maintenant Keir Starmer.
Rishi Sunak, il est anglais comme moi. Je veux dire, bon, il a épousé une des grosses fortunes indiennes et lui-même. C'est une fortune indienne considérable. Bon, il se trouve qu'il est Premier ministre britannique. Mais enfin, c'est pas un vrai anglais.
Oui, pas ça, parce que c'est un indien quand même.
Comme disait Tebbit, qui était un des ministres de Thatcher, quand il y a un match de cricket entre l'Inde et l'Angleterre,
ouais.
On sait pas très bien pour qui.
Ah oui.
pour qui il va soutenir. Ouais, quoi. Ouais. C'est tout ça, si vous voulez, ça veut dire que partout dans nos pays, parce qu'en Allemagne, la représentation actuelle politique n'a plus rien à voir avec ce qu'est l'Allemagne. La coalition vient de voler en éclats. En France, c'est nul. En Allemagne, c'est nul. En Angleterre, c'est nul. Donc, on se rend compte que partout, on a une espèce de mauvaise adéquation entre la représentation politique, qui représente des idées du passé, et puis ce dont les gens ont besoin aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Donc c'est tout à fait étonnant. Partout, on le voit, ça. On avait ça aux États-Unis. Bon, c'est bien de sauter. Et ben, il faut qu'on retrouve une représentation qui représente le pays.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est aussi le système, électoral qui conserve un petit peu cela. Mais c'est vrai qu'on a des clivages, en fait, qui sont des clivages principalement des années 90 ou 2000.
Plus longtemps.
Autour de ces années-là. Et aujourd'hui, ça ne s'applique pas du tout. On n'a pas du tout la moitié de l'opinion qui est vraiment en accord avec le Parti conservateur et l'autre moitié qui est vraiment en accord avec le Parti travailliste, comme on pouvait avoir il y a plus de 20 ans.
Aujourd'hui, le Parti travailliste, comme la gauche en France, etc., ça ne représente que les gens de la fonction publique.
Oui.
On a beau dire ce qu'on veut, mais c'est les gars qui sont à l'abri du chômage... qui sont là, quoi. En France, c'est pareil.
C'est pareil. Keir Starmer, c'est un macroniste anglais.
C'est la même chose. Donc, vous vous retrouvez avec Macron en Allemagne, Macron en Angleterre, Macron en France, et vous vous dites, ben là, il y a un problème, parce que ça veut dire, ça va changer, c'est pas possible.
Et ces trois, encore une fois, ces trois pays sont en profonde crise politique. Soit ils changent, soit ils sont dans des crises politiques. Oui.
Parce qu'ils s'appauvrissent, tous les trois sont en train de s'appauvrir en raison des choix faits par cette classe qui ne cherche pas à défendre les intérêts du pays, mais à être reçu par le FT ou par le Monde.
Oui.
Et donc, on a l'impression qu'on a des gens qui ne comprennent pas que gouverner, c'est choisir entre deux mots. Ils cherchent à faire de mal à personne, mais à force de faire de mal à personne...
Ils font du mal à tout le monde.
Oui,
c'est exactement ce qui se passe avec Keir Starmer. Il a voulu faire... il avait fait une campagne...
Faisons pas de bruit. Les conservateurs vont perdre parce que tout le monde les déteste. Donc, je fais rien.
Exactement. Là où, en fait, peut-être que, par exemple, si c'était Jeremy Corbyn qui avait été en charge de cette campagne, peut-être qu'il aurait perdu parce que les types en face, ils se diraient...
je vais aller voter.
Ok, les conservateurs, ils m'embêtent un peu, mais enfin, je vais quand même pas laisser ce communiste arriver au gouvernement. Donc voilà.
Communiste et antisémite notoire.
Et antisémite notoire, oui, tout à fait.
Donc ça fait beaucoup, quoi. Vous me direz, il n'y avait pas plus antisémite que Marx, mais... ce que les gens ne savent pas, d'ailleurs, il a écrit des traités sur la question juive qui étaient assez...
Il serait interdit
aujourd'hui.
Les socialistes du 19e siècle, c'était pas les types les plus philosémites de l'histoire.
Non, pas vraiment.
Que ce soit les socialistes à la sauce allemande ou même socialistes à la sauce française, les Proudhon et autres, c'est pas forcément les types les plus pro-juifs. Pour cette émission sur cette question.
Ce qui se passe en Angleterre est intéressant, mais ça n'est que le symptôme du malaise profond qui existe en Europe.
Oui.
Parce que c'est ce qu'on retrouve, tout le projet européen est en train d'exploser sous des formes différentes, en Angleterre, en Allemagne ou en France, mais le projet européen de base, qui était cette espèce de construction d'un État européen, d'une nation européenne, est en train d'imploser partout.
Oui, mais il n'y a pas de hasard. Partout, les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Pas exactement les mêmes effets, mais produisent des effets délétères.
Des effets très, très similaires.
Et ça veut dire aussi que, comme ça n'a pas été gouverné pour les pays, le niveau de vie baisse partout.
Oui.
Et ça, c'est très, très mal perçu.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Je pense que voilà, il y a pas énormément de médias francophones qui traitent cette question.
N'oubliez pas quelque chose d'important que me disait mon cher père. Les Anglais, ça perd toutes les batailles.
Ça gagne toutes les guerres.
Ouais. Donc il faut jamais désespérer de l'Angleterre. Ils sont marrants. Et parce que moi, ils me font rigoler. Si vous le voyez ça aussi dans les matchs de rugby et tout. Il faut toujours, dans les 10 dernières minutes, les Anglais
sont... Il faut faire gaffe, ouais. Bon, là, depuis quelques années, ils sont un peu calmés, ils peuvent être dangereux quand même.
Ils peuvent être dangereux.
Voilà, pour la fin de cette émission, je vous remercie, bien sûr, de nous suivre sur l'Institut des Libertés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Absolument.
Toujours sur l'Institut des Libertés.
Merci beaucoup.